France Culture.
La vie, c'est comme si on était à bicyclette, ça roule, alors ça avance. Ce sont des cercles, mais ce sont des cercles qui quand même se propulsent. Enfin, on peut prendre la vis d'Archimède si on veut, enfin, ou une hélice qui se propulse.
J'ai toujours trouvé Françoise d'une beauté incroyable. Alors, elle a un visage très architecturé, puis évidemment une lumière magique dans les yeux. Il y avait des fois où je me disais, mais elle est tellement belle, mais comment c'est possible? Elle a 98 ans, elle a 100 ans, comment peut-elle être aussi belle? Et c'est fascinant, parce qu'elle irradiait de la beauté, elle irradiait de la beauté. C'est pas seulement sa beauté physique qui était pourtant extrême, mais c'est aussi cette... aura qu'elle avait, cette intensité glorieuse et joyeuse.
Ce n'est pas la réalité qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de, si on peut dire, d'évoquer.
Notre mère, le côté magnifique, c'était la liberté. Comme elle, elle était en train de peindre et que souvent d'ailleurs elle nous a laissé chez sa mère et qu'elle allait vivre ailleurs pour peindre, vivre sa peinture pleinement, on était très libres. Puis elle trouvait qu'il fallait être libre. Elle ne voulait pas des petits Françoise Gillot, elle voulait des êtres qui étaient eux-mêmes. Ça, c'était fantastique. Le grand cadeau qu'elle nous a fait. C'est un cadeau merveilleux.
Là, c'est un dessin, justement, où les, vous voyez, les personnages sont entre humain et animal.
Quand je pense à Françoise, ma grand-mère, qui est donc ma grand-mère par mon père, Claude Picasso, je pense à son aplomb. Quelquefois, on a une image poétique des grand-mères gâteaux, etc. Et Françoise était très affectueuse, mais c'était aussi quelqu'un auquel on venait rendre visite, qui était toujours dans son atelier, puisqu'elle habitait dans son atelier. Et donc, je pense vraiment à elle comme quelqu'un qui travaille là où elle habite et qui est complètement, entièrement penché sur ses propres études et dans son propre labeur.
Un tableau, pour moi, c'est une composition. Un peu comme on dirait une composition si on était un musicien.
Françoise Gillot, une vie d'art et de liberté.
J'ai commencé d'abord à dessiner, etc., à partir de l'âge de 5 ans. Alors ça, c'est bon. Ma mère était assez artistique, elle faisait de la céramique, etc. Donc je veux dire, j'étais aussi dans un milieu qu'on peut appeler cultivé, où mes parents allaient voir les expositions de peinture, etc. Il y a des personnes qui ne sont pas exposées à ça. Moi, j'ai été exposée à ça tout de suite. Et puis après ça, évidemment, mes parents allaient en Italie, on allait par-ci, on allait par-là. Je veux dire que ça a toujours été une partie de moi, si vous voulez. Et d'ailleurs, en plus, ma grand-mère connaissait très bien un peintre qui était un peintre néo-impressionniste. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit que c'est quand j'ai eu 5 ans que j'ai voulu devenir peintre, parce que un jour, elle recevait des amis, je crois que c'était vers le début de l'année ou je sais pas quoi, et j'ai vu ce monsieur parce que j'étais dans la maison, mais je regardais depuis l'escalier. Comme j'avais 5 ans, j'étais pas invitée. Alors bon, et j'ai vu ce monsieur qui est arrivé. Et alors j'étais très impressionnée parce qu'il avait un chapeau noir mais avec des larges bords, et puis une grande cape noire également, et il tenait un bouquet de violettes de Parme énorme pour donner à ma grand-mère. Je me suis dit, ça alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? Alors j'ai demandé à la bonne, là, qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? Ah, mais c'est un artiste! Ah, j'ai dit, mais moi je veux aussi être une artiste! Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à embêter ma mère pour avoir des couleurs et tout ça. En fait, j'ai eu ma mère comme premier professeur de dessin et tout ça, oui. Et quand j'ai eu à peu près 12 ans, j'allais dans une école de la ville de Paris où les autres personnes avaient 18 et 20 ans. Mais la peinture à l'huile, j'ai commencé quand j'ai eu 17 ans.
Alors, sa mère était déjà très artistique puisqu'elle, c'était une autre génération, donc on ne devenait pas forcément peintre à ce moment-là, mais elle faisait de la céramique et donc elle faisait du dessin et plutôt des arts appliqués.
Aurélia Engel.
Donc, elle était très contente de voir sa fille très jeune. Elle a vu qu'elle avait un talent. Et du coup, elle s'est effacée. Elle est, plutôt que de continuer son art à elle, elle est devenue le professeur et le guide de ma mère, de sa fille. Et elle a été un professeur très important pour ma mère. Pour ma grand-mère, évidemment, c'était fantastique, puisqu'elle trouvait que ma mère avait la force qu'il fallait pour devenir artiste. Quant à son père, lui, il était beaucoup plus pour la poésie, la philosophie, scientifique. Il trouvait qu'elle devait devenir avocate parce qu'elle était une femme forte et qu'elle avait besoin d'être indépendante. Et puis, lui avait une industrie et donc, probablement, il aurait aimé qu'elle prenne la suite après lui. Donc, lui trouvait que c'était très bien qu'elle ait fait de l'art quand elle était jeune, mais qu'adulte, c'était pas une profession. Je crois que quand elle avait 8 ans, son père lui a dit « Je suis née pour commander ». Et ma mère a répondu « Je ne suis pas née pour obéir ». Donc voilà, ça vous donne une idée des relations familiales. Alors qu'avec sa mère, je pense qu'elle avait beaucoup plus une relation plus proche et plus de complicité.
Mon père était un homme très dominateur, alors en vérité, il fallait toujours faire ce qu'il voulait pour pouvoir obtenir de faire ce qu'on voulait. Alors, par exemple, il voulait bien que je fasse de la peinture, mais je devais faire mon droit quand même. Vous voyez, j'avais fini mon baccalauréat à 16 ans et demi, quand beaucoup de gens ne l'ont même pas commencé, parce qu'avec mon père, je voulais me débarrasser de tout ça, donc je voulais le faire. Parce que je savais qu'avec lui, il fallait le faire, et en plus, après, on fait un peu ce qu'on veut. Ça ne m'arrangeait pas toujours très bien. Donc, quand j'avais 16 ans et demi, que j'avais fini mon bachot, j'ai dit à mon père que je voulais faire uniquement de la peinture. Alors, il m'a dit, alors, tu sais très bien que si quelqu'un devient étudiant en médecine, il devient médecin. Si quelqu'un fait son droit, il devient avocat, etc. Plus ou moins bon, etc., ça peut aller. Mais si quelqu'un devient un peintre et on est simplement un comme ci, comme ça, ça ne va pas du tout. Alors, peux-tu me dire si tu es un grand peintre ? À 16 ans et demi, comment voulez-vous que je dise une chose pareille ? Alors, naturellement, j'ai compris que c'était mieux de me taire. Donc, ça a pris jusqu'à ce que j'ai eu 21 ans. Quand j'ai eu 21 ans, j'étais suffisamment confiance en moi pour abandonner le reste. Voilà. Et puis, à 21 ans, je ne sais pas si ça a été une espèce de nervous breakdown ou de dépression nerveuse ou quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que la peinture, c'était non seulement ma vie, mais c'était une espèce de salut de ma santé psychique. Parce que je me suis rendu compte que sans ça, je deviendrais toquée. C'est difficile d'expliquer, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête tout le reste et qu'il fallait que je fasse ça. À partir d'un certain moment, c'est devenu vital. Cette chose qui était un espoir est devenue quand même comme mon salut.
Alors, qu'est-ce qui faisait un gilot ? On va dire la couleur. Elle expérimentait beaucoup avec des tonalités très différentes, mais la couleur était probablement une des choses les plus importantes pour elle. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est le mouvement. Le mouvement, on peut dire que l'étoile de sa jeunesse, qui était très aboutie, c'est-à-dire qu'elle a été professionnelle très très jeune. Justement, à 19 ans, elle avait déjà son style. Elle me disait, quand elle m'avait appris à faire des authentifications, « Regarde l'intention. S'il y a une hésitation, si c'est mou, c'est pas de moi. » Il y avait toujours, elle disait, une force. C'est pour ça qu'elle aimait d'ailleurs créer rapidement, pour que l'intention soit forte, comme un éclair en quelque sorte. Donc on peut dire que ça, c'est une des choses qu'on reconnaît, la couleur, l'intention, la force d'une œuvre et d'être ce renouvellement. Dans ce renouvellement, puisqu'on peut dire que comme certains artistes qui ont su se renouveler et prendre ce risque, on peut penser à Le Corbusier, on peut penser à Frank Lloyd Wright, évidemment à Picasso aussi qui s'est renouvelé beaucoup. Donc il y a des artistes qui ont pris ce risque de ne pas s'installer dans une période. Il y a forcément une progression linéaire. Mais chez ma mère, il y avait également une progression cyclique. Périodiquement, il y avait peut-être un thème de couleur ou alors, comme la danse, un thème qui revenait, mais qui était réinterprété à chaque fois différemment.
En 1944-1945, une personne qui a été très importante pour moi aussi, c'était De Staël. On était dans un groupe qui s'appelait Les Réalités Nouvelles, qui était Abstraction d'ailleurs. Et il se trouvait que dans ce groupe de talents qui montait, moi j'étais une des personnes qui vraiment sortait à ce moment-là. Et j'étais la plus jeune de tout le monde, oui.
pendant l'occupation, les artistes ne pouvaient pas exprimer évidemment quelques protestations ou critiques. Les SS envoyaient des officiers avant chaque vernissage pour vérifier qu'il n'y avait aucune critique vis-à-vis d'eux dans l'exposition. Georges Braque s'est servi du thème du poisson, qui en fait est la chrétienté, pour exprimer sa critique et sur ce qui se passait à l'époque. Donc ma mère a trouvé ça très intéressant. S'est également servi de symbole à ce moment-là pour critiquer ce qui se passait et pour exprimer ses sentiments. Par exemple, il y a une œuvre d'un faucon, mais le faucon qui représente l'armée allemande est empaillé. Le faucon a l'aile qui s'envole, mais il y a la tour Eiffel derrière la fenêtre qui est plus haute que l'aile du faucon. Il y a des couteaux d'artistes peintres et sculpteurs sur la table, d'un air de dire qu'elle va attaquer le faucon. Et il y a Paris derrière la fenêtre, mais c'est un cimetière. Donc elle exprime tout ça en symbole. Donc évidemment, elle a pu l'exposer, ils n'ont rien compris. Il y a une autre toile très importante qui est un poisson avec la tête coupée et un grand couteau à côté. Ce qu'elle exprimait, c'est que la chrétienté était assassinée. Et en français, on dit perdre sa tête parce qu'une partie de la chrétienté perdait également sa tête en étant du côté des nazis, du régime allemand, parce qu'ils étaient, ils avaient peur et qu'ils étaient lâches. Et il y a un grand couteau à côté pour exprimer évidemment l'assassinat de la chrétienté et peut-être aussi le fait que l'histoire se terminerait pas comme ça. Donc pour elle, les symboles, ça a été toujours des moments où elle ne pouvait pas s'exprimer directement. Donc on ne va pas dire qu'il y a des symboles à travers toute son œuvre, mais dans les périodes où elle a du mal à s'exprimer, où elle ne se sent pas en sécurité pour s'exprimer, les symboles reviennent.
Elle n'était pas supposée passer la guerre en France, et puis quand elle pensait passer la guerre en Angleterre, en fait. Et puis elle a raté le dernier bateau.
Paloma Picasso.
Du coup, elle est restée en France, qui était évidemment plutôt difficile, parce que les Allemands étaient très durs. Il y avait des listes. Si les Français tuaient quelques Allemands, on descendait un certain nombre de jeunes Français pour punir et pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Alors évidemment, ça se reproduisait, mais donc je sais que Françoise était sur ces listes et que c'est pour ça que son père voulait qu'elle parte en Angleterre. Elle n'a donc pas réussi, et puis aussi elle a travaillé pendant la guerre, il fallait faire quelque chose, en plus on ne peut pas arrêter de vivre, donc elle voulait faire des choses, et donc elle faisait des boutons pour la haute couture, puisqu'ils étaient... Donc c'est vrai qu'elle avait des connaissances dans la haute couture, puisqu'elle était jeune fille de bonne famille, qui était bien habillée par certains couturiers, et du coup, elle a pu, grâce à ça, aller leur vendre des boutons qu'elle faisait en céramique, en général. Malheureusement, il n'en reste pas, ça c'est un peu triste, mais ça a été une façon plus légère d'aborder la guerre, et puis, malgré tout, elle savait déjà que ce qu'elle voulait, bien que son père l'obligeait à faire des études de droit, que ce qu'elle voulait, c'était vraiment devenir peintre. Et donc, elle a rencontré Rojda, elle a passé... Alors, heureusement, son père, d'ailleurs, aimait beaucoup Rojda et aimait la peinture de Rojda. Ce qui veut dire que, du coup, il trouvait tout à fait bien que Françoise aille étudier avec lui. Il a trouvé beaucoup moins bien qu'elle s'approche de Picasso, dont il n'aimait pas l'œuvre du tout, et qui, en plus, d'ailleurs, était plus âgé que lui-même. Alors ça, c'est pas très très bien passé. Enfin, ça s'est même très très mal passé. Il a arrêté de lui parler pendant des années. Je n'ai connu mon grand-père qu'à l'âge de 5 ans, quand elle a quitté Picasso. Elle a rencontré Picasso. Françoise avait une exposition avec une autre amie à elle qui s'appelait Geneviève. Et elles étaient donc en train de dîner dans un restaurant. Et puis, un ami à elle, qui était aussi un ami de Picasso, qui s'appelait Alain Cuny, qui était un acteur assez merveilleux, les a présentés. Il était en train de dîner avec mon père, et mon père trouvait que ces deux jeunes filles avaient l'air absolument merveilleuses, une peut-être un peu plus que l'autre, qui était donc sans doute Françoise, et il les a invitées à venir à sa table. Et puis, elles ont, à sa grande surprise, il a découvert qu'elles étaient peintres. Et puis, il est donc allé voir leur exposition. Et puis, à la suite de ça, a demandé à Françoise de venir voir ses œuvres. C'est souvent une façon détournée de faire des propositions alléchantes. Et Françoise se méfiait assez, parce qu'elle voyait bien où ça risquait de l'emmener. Mais évidemment, c'était quand même tentant. Elle était évidemment aussi fascinée par son œuvre. Lui avait un charisme absolument incroyable. Donc, elle savait que c'était un peu dangereux d'aller s'approcher de cette lumière. Mais en même temps, c'était fascinant et tentant. Et puis, elle a résisté autant qu'il lui semblait essentiel de le faire, jusqu'à ce qu'elle cède. Voilà.
Donc, quand j'ai rencontré Pablo, j'avais 21 ans. Quand je l'ai quitté, j'en avais 31. Alors, quand j'avais 21 ans, en quelque sorte, comme j'avais eu ni frère ni sœur, j'étais habituée à être avec des adultes. Et en général, pour avoir la paix, je disais toujours oui. Et en effet, j'avais tendance à faire ce que les adultes voulaient, et ensuite, je faisais ce que moi, je voulais. Alors donc, avec Pablo, j'avais adopté la même méthode de toujours lui dire oui, ce qui l'énervait énormément d'ailleurs. Parce qu'il cherchait toujours à savoir, est-ce que je disais oui parce que ça me faisait plaisir ou pour lui faire plaisir, ou est-ce que je disais oui parce que je voulais pas montrer ce que je pensais vraiment, ce qui était vrai aussi, etc. Ah bon, alors. Donc, il n'y avait pas de problème tant que je disais oui 100%. Et puis, quand j'ai commencé à avoir quelque chose comme 28 ans, tout ça, j'avais aussi, moi, des choses que je voulais faire et que, donc, si vous voulez, ça a été un peu le commencement de la fin, parce qu'à partir du moment où moi, j'avais d'autres visées, d'autres soucis et d'autres désirs, évidemment, ça ne pouvait plus marcher, parce que ça marchait très bien, parce que c'était moi qui collaborais à 100%. Mais quand j'ai pas voulu collaborer à 100%, ça pouvait pas marcher. C'était étouffant, mais d'un autre côté, comme on avait quand même des conversations extrêmement... Et puis même de le voir vivre, de voir cette passion qui était lui, etc. Je pense, si vous voulez, que quand vous vivez avec quelqu'un de très intense, ça vous révèle de la vie des tas de choses que peut-être j'aurais jamais su autrement. Donc je pense que on peut dire dans l'ensemble, c'est positif. Même si, il faut dire qu'au jour le jour, de temps en temps, il était dans des humeurs absolument effrayantes. Mais dans le mal et dans le bien, on a été intense. Quand j'ai écrit le livre « Vivre avec Picasso », je dois dire qu'il avait fait un procès contre le livre et il a perdu le procès. Eh bien, le jour où il a perdu le procès, il m'a téléphoné chez moi en me faisant des compliments, en disant « j'aime les gagnants ». Il a dit « c'est très bien parce que, ça, en effet, si j'avais perdu, il m'aurait méprisé. Mais du moment que j'ai gagné, j'étais toujours l'étoile ».
C'est un grand moment de sa vie. Il y a eu toute une époque où vraiment entendre encore des gens lui poser des questions sur Picasso lui était devenu assez insupportable. Et puis à la fin de sa vie, ayant pris plus de distance avec ça encore, en fait, elle pouvait en parler plus facilement et aussi avoir pardonné certaines des choses qui l'avaient poussé à quitter Pablo, évidemment. Je me souviens que dans les 2-3 dernières années, elle me disait quand même, c'est extraordinaire, ton père est vraiment l'homme le plus intelligent que j'ai connu. Et par intelligence, elle voulait dire justement, c'était qu'il était capable de trouver des solutions à des questions. Il avait un esprit tellement agile, tellement novateur, qu'on ne pouvait pas résister à la fascination de comment son esprit pouvait se développer, comment il résolvait des questions que souvent il se posait à lui-même. Parce qu'en fond, ce que Françoise m'a dit souvent, c'est qu'être artiste, c'est poser les questions et trouver les réponses soi-même, en dehors de toute autre personne. C'est un chemin qui est en fait très solitaire. Une fois qu'on a fait les œuvres, on peut les montrer au public, on peut les partager avec le public, mais tout ce cheminement est un cheminement très profond, personnel, une quête de soi aussi quelque part, et puis, comme je disais, oui, un chemin solitaire.
J'avais 40 ans de moins que Picasso, je ne pouvais pas me confondre. D'ailleurs, ça, c'était salutaire, parce que, je veux dire, il fallait que je fasse, moi, mes expériences à moi, seule. Je n'étais pas de cette génération-là, c'est évident. Il fallait que je commence peut-être comme une espèce de travail de laboratoire, justement, le travail en se concentrant sur ce que je voulais faire.
Quand Françoise Gillot a quitté Picasso, c'est que pour elle, c'était fini. Bon, elle s'est reconstruite on peut dire rapidement, d'une certaine manière, puisque sa nature a sauté dans le vide, ben là, c'était un autre vide émotionnel. Mais donc, elle a sauté dans le vide, puisque aussi on peut dire que Picasso n'était pas son premier amour, puisqu'elle avait eu une passion pour mon père, mais mon père était très très jeune, il était un peu plus jeune qu'elle, très timide à l'époque, et donc était resté ami, mais un peu, comment dirais-je, il n'osait pas faire les premiers pas. Alors donc elle avait fait un trait dessus, mais donc on ne peut pas dire que Picasso était le premier homme qu'elle ait aimé. Et il y en avait quelques autres jeunes gens qu'elle avait aussi beaucoup appréciés avant. Donc elle a sauté dans le vide, une fois de plus, émotionnellement. Et peut-être le fait qu'il ait été combatif quand elle est partie, en lui disant « mais jamais vous n'existerez sans moi », ça lui a donné cette force aussi également de rebondir et de dire « comment, quel culot de me dire une chose pareille ? Eh bien si, je vais rebondir artistiquement, émotionnellement, et je vais revivre sans vous ». Et donc pour elle, c'était aussi une gageure. Elle s'est reconstruite, avec évidemment des blessures qui reviennent dans l'œuvre, puisque dans Le Labyrinthe, Thésée, c'est quand même un peu le personnage de Picasso. Et d'ailleurs, il y a des pis, comme dans le symbole géométrique, qui évidemment, c'est le P de Picasso également.
Faudrait que je cherche... Ça aussi, vous voyez, ça c'est la Grèce. Vous voyez, il y a un petit lézard là, il y a un faucon, les ruines de la Grèce antique, comme si la vie était un espèce de cimetière. Voilà, ça par exemple, c'était les, vous voyez, les tableaux du labyrinthe.
La série du labyrinthe, qui donc a commencé vers 1961, et qui a repris tout le thème du labyrinthe, de Thésée, d'Ariane et du Phil. Toute l'enfance de Thésée également. C'est une série abstraite, pratiquement entièrement abstraite. Quelquefois, on voit quelques éléments de figuration, mais vraiment abstraits eux-mêmes. C'est la seule série où elle a travaillé pendant 2 ans et demi, 3 ans, uniquement sur ce thème, sans faire quoi que ce soit d'autre que ce thème.
Ce qui m'intéressait, c'est que, donc, si on veut, dans les trois personnages, pour ainsi dire, principaux, c'est donc Thésée d'un côté, Ariane et le Minotaure. C'est le masculin, le féminin et le divin animal en même temps, etc. Nous avons tout ça en nous, d'une certaine façon, alors. Vous voyez, ça, c'est le tableau qui commence Birth, la naissance. Labyrinthe à la nuit. Et là, sans masque, alors il y a le T de Thésée, et c'est en principe le labyrinthe est là. Depuis mon enfance, j'adorais la mythologie grecque. Je me plongeais dans des livres sur les sculptures grecques. Et même quand j'avais 5 ans, j'allais au Louvre voir les sculptures grecques et les vases, etc. Ça me plaisait. C'est un tropisme, si vous voulez.
Ma mère, qui était très très en avance pour son âge en classe, quelquefois s'ennuyait un peu. Et donc, quand elle s'ennuyait, elle restait sagement à écouter le professeur, mais en fait, dans ses rêveries, elle rêvait de la mythologie grecque, parce qu'elle trouvait que le catholicisme qu'on lui enseignait était beaucoup plus guindé, et elle trouvait les dieux grecs beaucoup plus amusants. Parce qu'ils faisaient des erreurs, ils faisaient des choses qu'ils ne devraient pas faire, ils faisaient des coups bas aux humains, enfin tout y passait. Et donc, quand elle s'ennuyait à l'école, dans sa tête, elle projetait comme des tableaux vivants de théâtre avec des personnages, avec des props, comme on dit en anglais, donc des arbres, des vases, je ne sais pas quoi, qu'elle plaçait dans ses rêves. Elle se construisait déjà des images, des tableaux vivants, dans ses rêveries quand elle était enfant. Elle a été en Grèce en 1960, ce qui a précédé la grande période du labyrinthe. Elle a découvert la réalité des ruines grecques, des îles, de la lumière, puisque pour ma mère, la lumière d'un lieu est excessivement importante et c'est une grande influence pour elle, toujours. Découvrir des lumières différentes dans des lieux différents. Et donc, elle a vu les ruines grecques. Et ce qu'elle a trouvé, justement, en allant visiter tous les temples et tout ça, c'était que, oui, d'accord, il y avait quelque chose de la mort dans ces ruines, mais il y avait aussi tout un monde animal qui habitait ces ruines. Et donc, il y a un contraste entre la vie et la mort. Et c'est ça, c'est quelque chose qui l'avait beaucoup touchée et intéressée. C'était un grand bonheur pour elle que de se connecter physiquement avec la Grèce, avec aussi bien l'architecture des îles, donc les grands temples et tout ça, l'histoire.
Quand je suis allée en Grèce à partir des années 60, j'avais des amis qui avaient une goélette et j'affrétais ce bateau-là et j'allais d'une île à l'autre avec Claude qui avait 15 ans à cette époque-là et Paloma, voilà, on se baladait dans les îles. Et c'était à la fois le paysage qui est très très beau, le fait que justement qu'on pouvait se trouver, si vous voulez, à différentes, tout en se baladant dans l'espace, on pouvait aussi se balader dans le temps.
Ma mère, elle nous a emmenés en Grèce, moi et Paloma. Pratiquement, on est resté en Grèce, quoi. On s'est aperçu qu'on y était né, quoi, plus qu'ailleurs.
Claude Picasso.
On se sentait proche des gens, mais même physiquement du paysage de la Grèce, ça influe sur ta façon de penser. Le fait que ça soit en même temps dur et beau, c'est très fort. Hein. Le vent est très fort, le soleil est très fort, tout est très typé. Et ça te permet d'avoir les idées claires.
Ma mère est quelqu'un qui ne regarde jamais en arrière. Elle a été élevée comme une flèche et donc pas de regret. N'hésite jamais. Donne ton amour. Et ben, une fois que c'est fini, il n'y en a plus, on n'a pas de regret, on n'a pas de nostalgie. Et donc on peut aimer quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'elle a fait parce que c'est une femme passionnelle. Et donc, elle avait rencontré, je sais, Kostas Axelos, d'abord, qui était un philosophe grec. Ça a duré une année, je pense, mais c'est quelqu'un qui restait son ami toute sa vie. Et puis, elle a retrouvé mon père, Luc Simon, qui est donc, cette fois-ci, n'avait plus 18 ans, était quand même un petit peu plus téméraire et osait enfin avoir une relation avec cette femme qui avait été très importante pour lui depuis le début, mais très intimidante. Et elle a rencontré Jonas Salk en 1969, et ils sont restés mariés jusqu'à sa mort à lui. C'était très intéressant pour elle, puisque c'était à nouveau quelque chose, un thème différent de ce qu'elle avait pu fréquenter auparavant, même si son père avait été scientifique et l'avait entraîné aussi à voir les choses d'une manière scientifique. Et il y avait au Salk Institute, il y avait Francis Crick qui travaillait sur la double hélice, il y avait plein de scientifiques qui travaillaient sur des choses excessivement innovantes. Et donc, elle s'est beaucoup intéressée à toute la recherche et à comprendre et voilà, qui se passait là-bas.
Quand j'ai un thème, justement, ça fertilise l'imagination, ça vous donne la clé des songes, si vous voulez.
En 70, donc, elle épouse Jonas Salk et elle va habiter la moitié de l'année à San Diego, à La Jolla, avec cette lumière très crue. Et comme en Grèce, il n'y a pas de détails, c'est ou blanc ou noir. Donc, tout d'un coup, face à cette lumière très crue, et à ce pays aussi qui a une énergie incroyable, souterraine, et on revient au côté aimant de ma mère, enfin magnétique, de capter les ondes, même les civilisations indiennes, Native American, qui imprègnent la terre de là-bas. Donc sa peinture change complètement. Il n'y a plus le côté nuance, il n'y a plus le côté peut-être impasto, et on va vers une peinture de couleurs vives, d'aplat, complètement à plat, d'ailleurs souvent peint au couteau, donc peint vraiment très lisse, sans détail. Toute la perspective est créée par la relation des couleurs. Elle crée des perspectives, sans jamais vouloir utiliser de perspective, jusqu'aux années peut-être 90, quand elle a vécu en Amérique, elle a dit que ça a été une libération totale. Déjà, quand elle a été à Londres, elle a quitté certaines racines françaises, certaines manières de penser plus rationnelles françaises. Elle avait déjà été à Londres adolescente, puisqu'elle y allait tous les étés dans une famille. Et elle a retrouvé un certain esprit plus irrationnel, et ce qui lui permettait d'exprimer son émotion plus irrationnelle. Donc quand elle a vécu à Londres, c'est revenu à la surface. Quand elle a vécu en Californie, cette nature et cette culture en mouvement, puisque Los Angeles, San Diego ne regardaient jamais vers le passé. C'était toujours qu'est-ce qui doit être nouveau ? Jamais en arrière. C'est une culture où le passé n'existe pas. Quelquefois, ça peut paraître un peu pauvre en culture, puisqu'on se dit, mais attendez, il n'y a pas de passé. Mais non, c'est toujours une course en avant. On a parlé des aplats, on a parlé des couleurs très vives. Il y a aussi le mouvement. Même les paysages sont en mouvement. Tout est en mouvement à partir de ce moment-là.
Il me semble qu'au XXe siècle, c'est peut-être assez courant parce que on est tous emportés dans une vélocité. Si vous voulez, tout le monde a eu l'expérience d'être en avion, d'être en ceci, de cela. Donc, si vous voulez, la question de la vitesse relative du déplacement. Par exemple, si vous voulez, quand j'étais très jeune, j'étais plutôt bonne skieuse et j'aimais aller très vite. Et quand je conduisais des autos, j'aimais les autos assez rapide aussi, etc. Et quand je faisais du cheval, j'avais des très bons pur sang. La vie, si c'est pas une vie un peu accélérée, c'est pas drôle. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que je me plais aux États-Unis.
A priori, comment dire, c'est comme moi, quand on est né en France, Françoise est bien entendu née à Neuilly, je pense que fondamentalement, elles ne peuvent être que françaises, fondamentalement.
Jasmin Ruiz Picasso.
Et de la même façon, sa terre d'adoption étant les États-Unis, parce que c'est une grande liberté qu'on peut se donner comme artiste aux États-Unis. Plus on est artiste comme elle, studieuse française, qui a côtoyé des artistes français ou qui vivaient en France, plus les États-Unis s'ouvrent vers nous comme une libération totale. Alors, d'autant plus la Californie, qui bien sûr pratique l'amnésie culturelle comme presque raison d'être. Et je pense que ça peut être frustrant parce que ça peut y avoir un vide culturel de ça, mais en fait, si on est déjà ancré dans son travail, ça peut être une libération totale. Je pense que la Californie, pour François, c'était la... Tout s'ouvre à tout. C'est comme un voyage qui dure plusieurs décennies, quoi.
Je pense que le fait que Françoise Gillot avait un pied sur chaque continent tout au long de sa vie l'a amenée de facto à rester extrêmement ouverte d'esprit, avec une curiosité insatiable.
Adrien Meyer.
Sa facilité à renouveler son travail, à créer des nouveaux chapitres dans son œuvre, alors que son travail a évolué au fil de plusieurs décennies. On aurait pu, ce qui est le cas de certains artistes, voir son travail s'essouffler. Et au contraire, ce qui était incroyable, c'est que plus les années avançaient et plus elle redoublait de vigueur pour réinventer ses thématiques. Ce qui est incroyable, c'est que je crois que la première fois dont j'ai entendu parler de Françoise Gillot dans mon cadre professionnel, c'était en tant que cliente. Et alors évidemment, ça m'intéressait de savoir ce que Françoise Gillot collectionnait. Et j'étais très amusé d'apprendre qu'en réalité, ce qu'elle collectionnait était son propre travail. Et je trouvais que c'était génial, parce que ça en disait long sur la personnalité de l'artiste, de la personne de Françoise, que j'ai très vite eu envie de rencontrer, outre ses qualités d'artiste, ne serait-ce que par cette attitude qu'elle avait de vouloir retrouver ses propres œuvres. Et d'ailleurs, j'ai été amené étant basée à New York, mais gardant un lien avec Paris et l'hôtel Drouot, à lui signaler des œuvres par elle qui passaient Drouot et qui lui échapperaient peut-être. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est amené à se rencontrer. Et donc, je me suis rendu compte que Françoise avait une forme d'amusement, enfin plus que ça, de routine, qui consistait à retrouver les œuvres d'elle qui passaient en vente, non seulement à New York, mais partout dans le monde. Elle avait un galeriste qui la représentait à la Nouvelle-Orléans pour ses expositions contemporaines, de son travail qu'elle faisait, mais elle récupérait les œuvres qu'elle voyait paraître en vente, jusqu'au jour où elle a commencé à avoir du mal à les acheter. C'était à l'époque où son marché s'est envolé. Alors là, je la voyais peiner un peu et laisser partir quelques œuvres qui lui étaient très chères. Je crois que le fait que Françoise Gillot ait réussi un tel parcours et eu une telle vie d'artiste, étant une femme dès les années 50, est révélateur de la force de caractère qu'elle avait et la facilité avec laquelle elle avait de s'imposer, d'imposer son travail, sa passion, au-delà des codes de l'époque. Je ne pense pas que Françoise Gillot était amenée à s'arrêter au genre. Je crois que pour elle, l'artiste était au-delà d'un homme ou d'une femme. C'est un artiste à part entière, que ce soit un homme ou une femme. Je crois vraiment qu'elle jugeait que la légitimité d'un artiste ou d'une artiste revenait à la qualité de son travail. Et je crois que c'était l'une des choses qui l'a motivé tout au long de sa vie.
Françoise était intéressée par tous les arts, en fait. Il n'y avait pas de plus important ou moins important. Il y avait certaines choses dont elle était plus près, puisque c'était son métier à elle. Mais elle nous a aussi, ça c'était une grande chance, emmené beaucoup enfants, écouter de la musique qui pouvait venir de très loin, de l'Inde, de Bali, de ceci, de cela. Et puis voir aussi des danses. Elle a elle-même fait des décors pour les ballets. Et ça, c'était quand j'étais assez petite, mais je me souviens que ça aussi, ça m'a esthétiquement marqué beaucoup. C'était un décor très, très fort, très noir et blanc, comme ça, avec des grandes flèches et des spirales. Enfin, c'était très beau. Et il y a ce côté abstrait qui n'est pas vide de sens. C'est un abstrait très nourri, je dirais.
Si on veut faire quelque chose, il faut faire table rase, c'est-à-dire qu'il faut faire comme si toute cette complexité...
n'existait pas ?
Oui, plus ou moins. Et puis, on reprend 3 ou 4 fils et on refait quelque chose, c'est ça ?
Alors, les autres arts étaient aussi très importants pour Françoise Gillot. Comme elle voulait être peintre, artiste depuis le début, sa mère, comme lui voulait, et son père voulait qu'elle apprenne le piano. C'était bien qu'une jeune fille apprenne à faire du piano. Et elle voulait garder ses mains pour le dessin. Elle trouvait que de faire du piano lui abîmerait son outil principal qui était ses mains. Donc elle ne voulait pas faire ça, ça ne l'intéressait pas. Par contre, elle était très intéressée par le rythme et donc elle avait dit à son professeur de piano, je pense qu'elle a fait 8 ans de piano ou quelque chose comme ça, elle avait dit à son professeur, d'abord jouer comme ça, ma mère entendra le piano, elle sera très contente, elle pensera que c'est moi qui joue très bien. Et expliquez-moi le rythme, expliquez-moi la musique. Et donc pour elle, elle était très avancée dans la lecture du ressenti de la musique. Dans sa peinture, le rythme était très important. Tous les arts du spectacle la fascinaient, la nourrissaient. Alors elle a peint beaucoup d'acrobates, beaucoup de danseurs, puisqu'elle a fait elle-même des cours de danse quand elle avait 20 ans, moderne.
Pas de bruit.
C'était pour comprendre de l'intérieur de son corps le mouvement, qui a été quelque chose de très important dans sa peinture. Et du coup, il y a des danseurs, mais depuis ses premières toiles, pratiquement jusqu'à un peu la fin. C'était un thème très important. Le théâtre aussi, elle a fait toute une série sur le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Donc voilà, les arts du spectacle étaient très présents à travers toute son œuvre. Et c'est vrai que par rapport justement à cette formation de danse qu'elle a eue très jeune, elle disait effectivement « je peins avec mon corps, tout entier ». Et c'est pour ça qu'elle aimait beaucoup, alors c'était paradoxal, elle aimait ou les tableaux très petits, les miniatures comme elle le disait, ou les sans-figures. Elle adorait faire des sans-figures parce que justement, elle peignait toujours debout de toute façon, elle peignait jamais assise. C'était comme de danser. Si c'était une diagonale ou si c'était une horizontale, ou ça exprimait différentes émotions. Et si on refaisait dans le vide, devant une peinture, les gestes, en suivant la composition, je pense qu'on ressent l'émotion qu'elle avait en peignant ses toiles.
Françoise avait l'habitude de s'enfermer dans son atelier. D'une part parce qu'elle pensait qu'il y avait trop de peintres autour de nous et puis qu'il fallait qu'on aille jouer de notre côté plutôt que de la regarder peindre. Mais moi, j'étais fascinée par ça. Mon père, comme j'étais une petite fille extrêmement silencieuse, me laissait éventuellement rester à côté de lui pendant qu'il peignait. Et donc, j'avais trouvé, en tous les cas, quand on habitait rue du Val-de-Grâce, que si je passais par le balcon, j'arrivais à regarder par la fenêtre et comme elle était très très concentrée à peindre, je pouvais la regarder pendant des heures sans qu'elle me voie. Et quand je lui ai raconté ça il y a quelques années, elle était absolument sidérée que j'ai fait ça. Mais c'est vrai que c'est fascinant de voir quelqu'un créer. C'est une chance extraordinaire de pouvoir voir ça, le processus créatif qui se déroule devant vos yeux. Et bien, une fascination, une magie, quelque chose qu'on voudrait arriver à atteindre soi-même. Et en même temps, effectivement, l'idée de devenir peintre paraissait absolument insupportable et impossible. Ben, les avoir vus tous les deux créer donne envie de pouvoir toucher à ce moment magique où on touche le ciel. Alors on peut dire aussi que Françoise était quelqu'un de très physique. Les gens ne se rendent pas du tout compte du côté physique d'un peintre. Un peintre, il est debout toute la journée. En fait, il fait des kilomètres. Il avance pour poser une touche ou deux touches sur le tableau. Pour voir, prendre conscience de ce qu'il a fait, il est obligé de reculer, d'étudier ce qu'il vient de faire, puis d'y retourner. Et d'ailleurs, il y a une autre chose que faisait Françoise, que apparemment, je crois, les grands maîtres faisaient dans les siècles passés, c'était qu'elle regardait de temps en temps son tableau dans un miroir. Parce que c'est vrai qu'on a, alors on est ou droitier ou gaucher, et bien qu'elle, elle était les deux, donc c'était déjà plus facile sans doute. Mais on a tendance à faire certains gestes qui font que les choses peuvent être un peu déséquilibrées. Et en regardant son œuvre dans un miroir, on la redécouvre, parce que les codes évidents étaient cassés. Et ça m'est une chose qu'elle m'avait expliquée, que j'avais trouvé totalement fascinante.
Ce n'est jamais symétrique, c'est asymétrique. Mmh. Hein?
Alors elle a fait des portraits de nous, elle a fait pas mal de portraits de nous, chacun avec nos personnalités qui ressortaient à différents moments. On n'était pas obligé de poser, elle faisait ça d'après mémoire. Hein. Alors elle lui est arrivé de faire des portraits parce que des gens lui ont demandé de faire des portraits, mais avec nous elle les faisait de mémoire puisqu'elle nous connaissait si bien. Et c'est assez amusant. Alors moi j'en ai racheté un il n'y a pas très longtemps qui était en vente. L'autre je l'ai raté parce qu'il a fait un prix tel que j'ai fini par abandonner. Mais en plus on a forcément, moi j'ai l'habitude d'être faite en portrait. Mais quand je regarde l'œuvre de Françoise, je regarde l'œuvre de Françoise Gillot. Et ça, c'est une chose que je sais pas pourquoi, depuis toujours, j'ai toujours trouvé importante, et pour mon père et pour ma mère, de regarder leurs œuvres à travers les yeux de quelqu'un qui les admire, mais pas forcément en tant que fille. Alors, il peut se trouver que, effectivement, dans un tableau, je puisse trouver ou un détail, ou ça puisse me... Effectivement, peut-être que je l'ai vu peindre... Mais c'est une deuxième lecture. Pour moi, la lecture je regarde un François Gillot comme je regarderais un Matisse ou un autre peintre. Je pense que c'est une, je lui dois de faire ça. Et en plus, je lui dois d'autant plus que Eh bien, elle est avant tout un grand peintre. Et puis une merveilleuse mère et une fascinante femme. Voilà.
Y aurait-il une clé?
C'est un trésor où il y a beaucoup de clés, mais la plupart ne marchent pas.
Oui. Parler de la peinture.
Oui.
Et on passe toute notre vie à essayer des clés.
En faire même quelquefois.
Alors, il y avait évidemment la spiritualité dans son être et dans son œuvre. Ça a commencé assez jeune, puisque bon, on peut dire que la mythologie grecque était déjà peut-être une première spiritualité. Quand elle était à l'école catholique chez les dominicaines, elle questionnait tout. Et heureusement, ils ont eu l'intelligence de lui mettre un prêtre très important qui pouvait répondre à ses questions. Donc, plutôt que de lui dire « c'est pas bien de poser des questions », ils l'ont dirigé vers quelqu'un qui venait de temps en temps et qui pouvait avoir cette conversation avec elle. Après ça, vers les 20 ans, 22 ans, je ne sais plus, elle a commencé à s'intéresser à la philosophie hindoue et à la spiritualité hindoue. Et elle a été dans un ashram prendre des cours pour comprendre cette autre spiritualité. C'était une femme très ouverte vers les cultures du monde, jamais en jugement de l'autre, et toujours curieuse et à la recherche d'aller plus loin. Jonas était évidemment juif, même s'il ne pratiquait pas, c'était en lui. Donc, il y avait en elle une spiritualité qui n'était pas exprimée par des dogmes ou par une église quelconque et des rituels et des choses comme ça, mais qui était en elle et qu'elle exprimait par moments, rarement, puisque c'était peut-être plus mystérieux. C'est quelque chose qu'elle montrait moins. Mais dans certaines époques, on voit ressurgir d'une manière plus évidente cette spiritualité. Je pense aux floating paintings, qui d'ailleurs, il y avait beaucoup de symboles de l'Inde, ou de lettres inventées d'après des alphabets grecs ou sanscrits ou je ne sais pas quoi, bon, complètement réinventées. Mais, donc cette spiritualité revenait ponctuellement, le cyclique à nouveau.
Il n'y a pas tellement de mots pour dire ça. J'ai trouvé le mot « tendance ». Enfin, c'est peut-être le « telos » en grec, je ne sais pas, mais par exemple, qu'est-ce que c'est que l'intuition ? Ça m'arrive assez souvent, tout d'un coup, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il n'y a rien de rationnel là-dedans, mais il y a la tendance. Et la tendance, c'est que, comme mes forces sont assez comme des antennes, mes forces s'orientent vers une tendance qui est peut-être la petite chose qui est possible dans tout ce
chaos
chaos effrayant, oui.
Oui,
oui. Ça vous attire, vous savez, je veux dire que justement, eh bien, la tendance, c'est la partie de vous qui répond à ce but lointain. Oui. Donc, si vous voulez, moi, je considère ma peinture une tendance, justement. Ça fait partie de la trajectoire. Si vous envoyez une flèche, elle va faire une trajectoire qui est d'une ligne algébrique courbe, pas tout droit. Donc, dans la vie, à la fois, en partie consciemment, en partie inconsciemment, je pense qu'on se dirige, on est appelé. On est appelé, on est appelé par le but qui est aussi une fin et que sans doute on n'atteindra pas.
Alors si on pense au temps cyclique et au temps linéaire, alors c'est très drôle parce qu'une fois elle m'a dit, ah bon, forcément elle était à Paris sous l'occupation, donc on pouvait mourir à tout moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été avec Picasso. Elle a dit, pourquoi se priver d'une expérience parce que c'est peut-être pas classique, ce n'était pas quelque chose, est-ce que ça va durer? Tout ça, ça n'existait pas. On était dans l'instant présent. Puisqu'on pouvait être tué le lendemain ou le jour même, qu'est-ce qu'on en savait? Donc il fallait vivre le présent. Et il fallait, c'était très important, d'exprimer le présent parce que peut-être que justement c'était la seule chose qu'on pouvait laisser derrière et qu'à 20 ans on serait mort. Donc la mort pour elle, elle se voyait morte pour des bonnes raisons depuis l'âge de 20 ans. Donc à chaque fois elle se disait, elle m'avait dit, mais j'imaginais une fin, donc il fallait peut-être aussi pour ça créer vite Parce que peut-être c'était les derniers jours. Donc il fallait en profiter. Il fallait mettre vraiment tout ce qu'on avait en soi, dans son corps, dans son âme, dans son cœur, sur la toile, sur le papier. Parce que peut-être ça allait se finir, maintenant. Quand elle est arrivée à 90 ans, là, elle trouvait ça vraiment, pas dégoûtant, mais presque. Je dirais, c'est pas possible. Je ne me voyais jamais arriver vers cet âge. Et surtout, elle a dépassé l'âge de sa mère, qui est décédée à 86 ans. Et je crois que c'est très important pour beaucoup d'entre nous, quand on dépasse l'âge de ses parents, tout d'un coup, on se dit, ah ben alors, c'est la fin, c'est pas la fin, ça va être la fin, quand ? Donc ça, c'était un certain temps qu'il habitait. Mais en même temps, comme elle était toujours dans le futur, et à ne jamais regarder en arrière, en quelque sorte, et ben voilà, bon, ben je suis pas morte à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Comment ça, 90 ans, je suis toujours là? Et alors 100 ans, n'en parlons pas. Donc c'était le temps pour elle, c'était un galop en avant.
Alors Françoise ne regardait pas derrière. Françoise regardait vers l'avant avec énormément d'enthousiasme et de volonté. Et le temps qui passe, c'était peut-être pour les amitiés, disons, mais sûrement pas pour sa vie de travail. Je dirais que Françoise n'était pas angoissée par la mort. Autant mon père était angoissé par la mort, autant Françoise, d'ailleurs, vers la fin, était tout à fait sereine, ayant l'impression qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire sur Terre. Et ça, c'est merveilleux, et je dois dire que je l'ai laissé partir plus facilement grâce à ça. Parce que je me suis dit, je n'ai pas de raison de la retenir, ça serait très égoïste de vouloir la retenir, et je sais qu'elle a tout donné, tout le jour, et qu'elle avait l'impression d'avoir bouclé la boucle. Je crois que le plus important pour elle, c'était d'être vécue comme une peintre. Son œuvre était sa plus grande création, bien que ses enfants étaient une création aussi d'un autre genre très important. Et je crois que nous trois, on a ressenti ce besoin de la rendre fière de nous. Et je crois que ça, c'est un très joli cadeau aussi pour un parent. D'ouvrir la porte aussi, parce que quelquefois, le parent veut que l'enfant soit une réussite, mais veut la réussite qu'eux ont imaginée pour eux. Alors que Françoise voulait que nous trouvions notre réussite à notre façon, chacun de nous.
Ce qui était peut-être pour elle le plus important, si elle voulait léguer quelque chose à des jeunes artistes, c'est d'avoir du courage. Et je pense que ce qu'elle disait à ses élèves, c'est que bien sûr on a peur. Bien sûr, quand on saute dans le vide, on a peur. Mais il faut travailler avec cette peur. Il faut la dominer et il faut avoir le courage de se casser la figure aussi. Parce que on peut faire quelque chose et c'est raté. Quand elle était plus jeune, elle a détruit ou peint par-dessus certaines toiles. Mais sa mère, qui était donc son premier professeur, lui avait interdit la gomme. Sa mère lui avait dit, quand tu poses quelque chose sur le papier, tu marches en avant. C'est une première étape. Tu ne te dis pas c'est réussi, c'est raté, t'es pas en tant qu'autocritique pendant tout le truc. Tu continues. Et si ça t'a pas plu, tu fais autre chose, t'en fais un autre. Mais tu ne recules pas. Et je pense que c'est ce qu'elle essayait d'enseigner à ses élèves quand elle a enseigné pendant 8 ans et aux jeunes qui venaient la voir, c'est sauter. Oui, ça va faire peur. Bon, ben c'est comme ça. Mais c'est ça d'être artiste. C'est de toujours et d'être soi-même. N'essayez pas de faire plaisir à des collectionneurs, à vos marchands. N'essayez pas d'être à la mode et de copier un tel et un tel. Non, soyez vous-même. Allez à l'intérieur de vous-même et sautez dans le vide. Voilà.
La détermination. Pour moi, c'est très clairement la leçon de Françoise, c'est la détermination. Et notamment, je lui ai demandé de manière très directe, son processus artistique tous les jours. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement de savoir quelque chose de technique sur la peinture, mais en fait, le processus interne qui se passe quand on est face à la création. Françoise me disait très clairement que son processus artistique, c'était aussi d'être accompagné par des voix, par l'autocritique qu'on peut avoir. Et tout le jeu étant de surmonter ça. Elle me disait qu'une certaine façon, elle avait presque personnalisé son sentiment de critique, les voix des mentors qu'elle a peu eu, son propre jugement sur la volonté de travail, sur la qualité de travail qu'elle exigeait d'elle-même. Elle avait un peu formé, c'était devenu un hibou. Elle me disait, ah ça y est, j'ai le hibou sur l'épaule. Et donc il disait, il faut se débarrasser du hibou. Donc je descends dans la rue, je marche comme ça, le hibou s'envole, je m'en libère complètement. Et pour quelques personnes qui ont voulu travailler créativement, c'est quelque chose en fait qui est très familier. Et clairement, la leçon là-dedans, c'était qu'au jour le jour, il faut se libérer de ça, ou il faut le transcender. Qu'on soit en combat ou qu'on soit en harmonie avec, c'est quelque chose qui... on va outrepasser. Et donc voilà. Pour moi, ça, c'est la détermination au jour le jour, et puis la détermination sur la période d'une vie. On commence, on décide de peindre, si on est Françoise, ou de dessiner, et puis on continue, et à 101 ans, on continue toujours.
Le nombre des possibilités est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est justement à la fois l'infini des possibilités et en même temps ce schéma des répétitions, je vous dis, de la bicyclette qui, tout en tournant, avance.
François Gillot, une vie d'art et de liberté. Avec Paloma Picasso, Aurélien Engel, Jasmin Ruiz Picasso et Adrien Meyer. Françoise Gillot, Claude Picasso, extrait d'enregistrement privé. Prise de son, Marie Le Peintre, Éric Villenfin, Guillaume Ledu. Mixage, Amandine Grevoz-Frichou. Documentation, Antoine Vuilloz, Anne-Lise Signoret. Coordination, Emmanuel Laurentin. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Un documentaire de Yorgos Archimandritis, réalisé par Anne Pérez.